qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi et bienvenue à cette autre édition de Puissance maximale. Aujourd'hui, le 7 décembre 2009, lundi, et si vous peut-être que vous nous reprenez également en rediffusion, soit sur les territoires du Nord-Ouest, sur Radio Taïga, et également peut-être à Radio Antigosti, ou peut-être même que vous nous écoutez sur le net en Europe, parce qu'on sait que Puissance maximale est une émission très écoutée en Europe, très populaire, et on vous salue, que vous soyez français, belge, en fin de compte, de la communauté francophone. On vous salue et bienvenue à Puissance maximale. Je suis en compagnie de Guillaume Foran aujourd'hui.
Salut Vincent.
Salut Guillaume. Alors, Guillaume, une émission extrêmement chargée, comme à l'habitude, plein de sujets ici à Puissance maximale, qui est le magazine d'actualité ludique de la ville de Québec. Et de ton côté, de quoi vas-tu nous parler?
Ben, moi, de mon côté, je vais vous parler de deux choses qui me touchent, un dans mes jeux et l'autre dans mes jeux de rôle. Je vais commencer par parler de l'E3, Lord of the Rings Online, oui. Du système de skirmish, qui est une nouveauté qui est sortie. Mes impressions là-dessus, les points positifs, les points négatifs. Et je vais faire aussi un petit quelque chose sur une partie de Donjons & Dragons que j'ai eue récemment. Certaines choses que j'ai remarquées, du fait que ça fait quelques temps que je remarque, mais que je voudrais développer là-dessus pour tous les gens qui les maîtres de jeu ou même les joueurs.
Qui aiment bien le Donjons & Dragons. De mon côté, bien, comme c'est bientôt, enfin, quand on est en plein dans les magasinages de Noël, et j'aurai quelques suggestions. Enfin, on va faire le tour des consoles et justement PC, voir qu'est-ce qui convient le mieux si jamais vous n'avez pas de console de jeux vidéo à la maison ou peut-être que vous n'avez pas de PC assez fort justement pour jouer à des jeux et vous êtes intéressé par un achat. On va faire un tour rapide de ces différents modèles-là, voir qu'est-ce qui serait le plus approprié pour le client, pour la personne ou le joueur que vous êtes. Un petit peu d'actualité, je vous parlerai également des 10 jeux qu'il faut absolument jouer, soit sur PC, soit sur les consoles de jeux portables ou les consoles de jeux comme PlayStation, Xbox et la Wii. Quels sont les 12 jeux qu'il faut absolument jouer lorsqu'on sera en vacances durant le temps de Noël? Et on va, bien sûr, Puissance maximale, c'est une émission de radio que vous écoutez présentement, mais c'est également un site Internet. Qui est le www.puissancemaximale.com sur lequel vous pouvez retrouver différentes nouvelles, plein de liens et également nos adresses courriels. Vous avez nos noms et vous pouvez nous envoyer des courriels comme on en reçoit plein à toutes les semaines pour nous poser des questions et faire vos commentaires.
Il ne faut pas oublier aussi le Facebook de Puissance Maximale, malheureusement qui est en vacances depuis la semaine passée, mais qui devrait revenir pour la semaine prochaine avec le retour de François.
C'est ça, en étant sur Facebook, vous n'avez qu'à taper Puissance Maximale et vous allez le retrouver. Normalement, on est branché justement en ligne durant l'émission. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas plus grave que ça. Et on va commencer l'émission, comme à l'habitude, en musique. Et on y va avec le thème de Oblivion, qui est quand même un jeu assez incroyable, un super bon jeu, qui était sorti à l'origine sur PC et sur la Xbox 360, qui était par après, on l'a eu sur la PS3 également. Et nous suivrons également Siege of Mirkwood, qui est en passant...
C'est le trailer de... Non. De la nouveauté dans le jeu de le Troll Lord of the Rings Online. C'est le trailer que Turbine a fait et je vais vous le faire découvrir un petit peu moins de musique. Il y a quand même de la musique en arrière-plan, il y a du voice acting, donc des paroles, pour vous introduire le sujet.
Excellent, donc on y va tout de suite avec ça dans quelques instants. On revient avec la chronique de Guillaume.
have we known this day would come? Mirkwood is rife with the Dark Lord's minions.
All available arms to me!
At last, war is at hand. Sauron's orcs and beasts are many. One day soon, they will cross the river. But we will not wait quietly for their coming. We must strike the first blow against the darkness before all is lost. We will fight them in the forests, in the hills, in the very halls of Dol Guldur. Let the war come! We are ready.
Madame Folle, et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA, et c'est déjà le moment d'une entrevue aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir Francis Gagnon de Sociojeux, c'est bien ça?
Oui, effectivement.
Bonjour Francis, ça fait plaisir de t'avoir à Puissance Maximale. Oui. Francis, depuis quelque temps, en fin de compte, des nouvelles soirées de jeux qui sont de retour à Québec?
Effectivement. J'ai fait une grande pause due à plein de petits contrats, puis la vie familiale recommence aussi.
Ben oui, tout à fait.
Fait que là, je peux recommencer ça d'une manière assez nouvelle, dans un nouveau café, avec des nouvelles soirées, des nouveaux thèmes. Puis j'ai bien hâte de commencer ça.
On parle de quel café en particulier?
Ça va être sur Sainte-Foy. Le café s'appelle Sinécure, Café Sinécure. Puis c'est un café vidéothèque, dans le fond.
Oui.
Fait qu'on a un premier espace qui est en haut, qui va dédier, dans le fond, monsieur et madame tout le monde. Puis peut-être, au fil de l'aiguille, on va s'installer dans une section sous-sol pour les joueurs confirmés, si on veut.
Excellent.
Et c'est situé dans quel endroit exactement à Sainte-Foy, pour les gens qui connaissent un petit peu plus le secteur?
L'adresse précise, c'est 840 Avenue Sainte-Foy. En fait, c'est l'ancienne vidéothèque qui était là, qui a déménagé plus au sous-sol. Puis il a refait tous les lieux neufs. Fait que c'est un lieu qui est assez connu à Sainte-Foy, mais pas nécessairement de la ville de Québec.
Oui, c'est
mais
ça.
C'est pas loin de l'Université Laval. Là. Fait que c'est un lieu qui n'est pas trop compliqué peut-être, pour le stationnement.
Peut-être même avoir la chance d'avoir des joueurs qui sont des étudiants de l'Université Laval qui vont aller passer par là. Mais en fin de compte, les gens de Québec connaissent pas mal. C'était Avenue Mirin également dans ce coin-là.
C'est
donc,
ça, ouais.
Oui. Et on s'attend à quoi dans ce genre de soirée-là, Francis? Est-ce que c'est. Parce que, bon, beaucoup de jeux de société, des jeux de table ou des jeux également, là, un peu comme tu sais si bien les développer? Des
ben, c'est sûr que l'approche, c'est vraiment de mélanger tous les gens ensemble.
Oui.
Ça fait que moi, c'est ce que j'aime faire. Le lieu va permettre ça jusqu'à un certain point parce qu'il va avoir un lieu d'accueil que tout le monde va pouvoir profiter, partager le jeu. Ça va être des jeux qui peuvent aller jusqu'à des jeux très complexes, mais tout ça de façon conviviale. Il peut y avoir des jeux bruyants, moins bruyants, des jeux d'ambiance. Puis ça, c'est vraiment le rez-de-chaussée qui va être dédié à ça. Les tables vont permettre ce genre de jeu-là, de toute façon. Puis au sous-sol, selon la demande, on aurait peut-être ça dans les semaines à venir, peut-être plus à partir de l'année prochaine, à installer des tables, puis là, faire du jeu un peu plus confirmé, du jeu un peu plus long. Puis on va peut-être avoir même un animateur qui va être dédié à ça, qui va expliquer les jeux spécifiques pour les jeux un peu plus longs, pour introduire les gens à des parties un petit peu plus corsées.
Oui, puis c'est ça, ça prend quand même un endroit qui est un petit peu plus calme aussi pour les comme tu parles de parties corsées puis tout ça. Je me souviens quand on, en fin de compte, je sais pas si c'était passé par la Fiesta Ludique cette année.
Oui.
Et je me souviens que la Fiesta Ludique l'année passée, c'était seulement une salle. Cette année, ils ont doublé l'espace et justement les jeux un petit peu bruyants, et la section familiale était à un autre endroit que la section des
jeux.
J'y
étais, mais matériellement, faut dire.
Ouais, c'est
ça. Il y avait de mes jeux.
Ouais, c'est vrai, je les ai vus en passant, mais c'est ça, je t'avais pas vu du tout.
Non, mon frère était. mais, là pour animer,
oui,
puis j'ai
c'est
pas
vrai.
Pu y aller.
Je l'ai vu, ton frère. Et ben c'est ça, en fin de compte, les jeux que tu as étaient dans la section familiale, donc c'est certain que c'est des jeux un petit peu plus bruyants, des jeux où il faut bouger un peu plus, toujours intéressant, mais c'est bien qu'il y ait deux salles, en fin de compte, à Cinécure pour cet événement-là.
Et quand on parle du sous-sol, plus d'espace, des tables plus grosses, est-ce qu'il y a des possibilités pour les gens qui veulent faire du jeu, mais moins jeux de plateau, plus comme les jeux de Warhammer 40 000, de figurines de combat, ou est-ce qu'on se limite plus à des jeux de plateau?
Moi, je te dirais que je suis pas mal plus en lit sur le jeu de société. En général, je pense que le Warhammer, il a sa place, mais peut-être pas dans ce type de lieu-là. Peut-être à d'autres moments, il y aurait moyen de le faire, mais pour l'instant, je mets l'emphase sur le jeu de société, sur la convivialité que ça apporte. Le fait aussi qu'on peut faire des parties dans un temps, dans le fond, restreint, si on veut. Les autres des types de jeux comme le Warhammer, souvent, il y a un gros temps d'installation. Puis je pense pas que ça s'apprête nécessairement à ce type de lieu-là. Le fait que moi, je concentre vraiment mon intérêt sur le jeu de société.
Et on parle de soirées là, qui vont débuter à quelle heure, qui se terminent à quelle heure pour Monsieur Tout-le-Monde, justement?
Ah, c'est 19h. De 19h jusqu'à la fermeture du café. Puis on peut des fois allonger. Quand si le café il est pratiquement plein, c'est sûr que le propriétaire, eux autres, c'est des fadas de jeu, c'est le gérant qui est là. Lui, c'est un amateur de jeu. Il n'y aura aucun problème pour lui là, à continuer la machine jusqu'aux petites heures.
D'accord. Et est-ce qu'on parle d'une soirée qui est très coûteuse? Ou,
non, c'est 5$ l'entrée, jeu à volonté, l'ambiance. Moi, en fait, je suis là pour entremettre les gens ensemble.
Oui.
Hein, je suis animateur. Je suis là aussi pour conseiller les gens, leur conseiller des jeux. Je vais avoir probablement des aides animateurs puis même des experts qui vont pouvoir expliquer les règles pour les jeux un peu plus compliqués, comme je disais, au sous-sol, peut-être à partir de l'année prochaine. Fait que je pense bien que ça va s'installer. Là. L'ambiance là, vraiment est intéressante. Puis c'est très, très simple. C'est 5$, puis vous jouez pour la soirée.
Oui, c'est super intéressant. C'est ça, en fin de compte, on a une gamme de jeux qui s'offre à nous. On peut même amener les nôtres, si on veut.
Ben oui, tout est ouvert. Moi, je suis là pour le partage. Il y a des gens qui ont déjà apporté les jeux. Ça s'est déjà passé la semaine passée. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Même les jeux s'y apprêtent très bien, dans le fond.
Excellent. Justement, tu as amené quelques jeux ici sur la table, que en fin de compte, j'en vois plusieurs. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais nous présenter ou dont tu voudrais nous parler?
Ben, c'est un peu des exemples de jeux qu'il peut avoir, dans le fond, au premier étage, si on veut. Des petits jeux de dés, je vois ça un petit peu comme des entrées, si on veut, des beaux jeux d'ambiance. Des jeux de dés comme Sushi Bar, hein, des beaux jeux de notre très cher ami Rainer Kaiser. Oui. Et puis, des jeux qui sont faciles. C'est avec ces jeux-là, souvent, que je fais rencontrer les gens entre eux. Puis après ça, une fois qu'ils sont intéressés, on peut passer à des jeux un petit peu plus corsés ou des grands jeux d'ambiance en mélangeant les groupes entre eux. Les jeux d'ambiance un peu comme Privacy, hein, qui est un excellent jeu du style jouons à la bouteille, okay. Mais qui a une phase plus subtile, puis en même temps, on sort de là en sachant pas vraiment ce que les autres ont pensé, mais en sachant que dans le groupe, il y en a dans ce gang-là, qu'on sait que, bon, selon, mettons, ce qu'il y a sur la boîte, bon, j'arrive rarement à l'heure à un rendez-vous, mais là, on fait des votes, puis on finit par savoir qui sur moins une personne sur deux et sept qui n'arrive pas vraiment à l'heure. Fait qu'on finit par savoir des choses sur le groupe. Fait que ça crée vraiment un lien particulier entre les gens.
C'est super intéressant. Et ben, en fin de compte, si on parle de jeux là, que tu nous présentes ici, comme Dice Town, Coyote, puis tout ça, est-ce que tu me dis que c'est des jeux qu'on va pouvoir essayer sur place à
oui,
chaque soirée?
À chaque soirée.
Est-ce que d'après toi, je veux dire, c'est ouvert à tout le monde, ces soirées-là? Alors, même si on peut être néophyte en jeu et vraiment venir apprendre des choses?
Effectivement. Moi, j'amène toujours une grande panoplie de jeux. Autant de jeux pour les joueurs confirmés que des jeux complètement inédits, des jeux qui sont plus connus. Je vais attirer autant les curieux, qui ne connaissent même pas le jeu, mais qui veulent découvrir quelque chose de nouveau, là. Surtout aussi les personnes qui viennent au café, qui ne connaissent pas le jeu. Fait que des fois, je vais toujours chercher des jeux un petit peu bizarres, qui piquent la curiosité. Les gens posent la question sur ce qu'est ça, plutôt que ce qu'est ce jeu-là. Oui. Des fois, ça attire les gens. Ça peut être aussi des bons gros jeux intéressants qui vont intéresser les joueurs confirmés, mais souvent, on n'a pas toujours la possibilité de jouer chez nous. On manque de gens. Fait que là, avec les gens qui sont là, sont intéressés, on peut aller chercher facilement les joueurs qui nous permettent de faire une belle partie. On sait que les jeux, c'est toujours plus intéressant quand on est au nombre maximum de joueurs. Fait que l'intérêt de faire des soirées comme ça, ça permet, puis d'une manière aussi hebdomadaire, ça permet de redonner des rendez-vous aux gens, ça permet de vraiment vivre là, l'expérience du jeu là, à son plein potentiel.
Puis ben c'est certain, comme tu dis, là, d'avoir plusieurs joueurs, d'avoir le maximum de joueurs par jeu, c'est vraiment, oui, ça augmente le plaisir qu'on a, bien sûr, ça augmente la durée souvent, ou même parfois ça diminue, ça dépend du type de jeu avec lequel on joue. Parlant de jeu, justement, parlant d'effervescence de jeu peut-être, qu'est-ce que tu penses de ça, l'effervescence du jeu maintenant, là, c'est quand même assez incroyable au Québec, on en voit de plus en plus. On voit des compagnies qui produisent. On voit des créateurs qui commencent à émerger.
Ah, oui.
On sentait ce feeling-là en Europe depuis longtemps. Ça en vient vraiment vers l'Amérique du Nord. En tout cas, parlons du Québec en particulier. Là.
Ah, je pense que le Québec va encore sauver le monde. Ludique, j'en suis persuadé. Dans le sens que en Europe, de manière générale, ça va moins bien. Puis j'ai quelques contacts, là, des gens qui sont dans le domaine du jeu, qui font de l'animation. Et c'est pas facile. Ils font des animations du milieu corporatif, là, et c'est difficile. Ils ont de la misère à se renouveler. Puis je pense qu'ici, on est chanceux. Les choses vont moins mal, si on veut. Fait qu'on peut profiter le fait que si ça fonctionne assez pour en le fond, aller chercher tout ce boom-là par rapport aux jeux de société, puis partir plein de nouveaux projets super intéressants. Ma démarche à moi, c'est une réflexion que j'ai faite. Je me suis dit de m'en aller dans l'animation. Il y a des gens qui disaient « OK, je m'intéresse au jeu. Je vais apporter ma chose à date. Tiens, je vais être éditeur. Ah, tiens, tout simplement, je vais inventer un jeu. Ça m'inspire. J'ai envie d'aller plus loin. » Fait qu'il y a toutes sortes de stratégies, puis on voit même des initiatives qu'on ne voyait pas entre Europe. J'ai récemment découvert un guide sur les jeux de société, mais spécifique, qui a été fait par une orthopédagogue.
Ah oui.
Puis j'ai découvert, c'est quelque chose qui se fait pas nécessairement en Europe, la dynamique orthopédagogie, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a de spécifique au Québec. C'est quelque chose que je viens de découvrir. Je pourrais peut-être en reparler dans une prochaine rencontre.
Ça serait vraiment intéressant, oui.
Puis j'étais en train de l'apprendre pratiquement par cœur. Fait que ça fait un contrepoids, dans le fond, aux revues qu'on est habitué de connaître, style protégez-vous, ces trucs-là. Souvent, c'est un bon travail qu'il fait, mais dans le fond, là, il devient comme limité par la quantité de jeux qu'il y a. Fait que ça prend des revues ou des documents plus spécialisés, que ce soit par du côté éducatif ou du côté plus du jeu. Par contre, cette revue-là, elle a un bel équilibre. Elle focus vraiment, dans le fond, sur l'aspect pédagogie, mais par le jeu, c'est-à-dire focusser sur le plaisir. C'est-à-dire que si un jeu n'est pas amusant, ben t'apprends pas.
Oui, c'est vrai que ça, c'est difficile, c'est pas amusant, mais... Alors, toujours avec Francis Gagnon, à Puissance Maximale. Francis, dis-moi, on parle justement de l'effervescence du jeu et tout ça. Il y a quand même un côté où il y a certaines personnes qui ont des réticences à jouer parce que, je sais pas, moi, on dirait que les gens pensent encore que le jeu de société ou que le jeu de table, c'est encore Monopoly, c'est encore clou.
Ah, effectivement.
C'est quoi la façon de...
Ah, moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire parce que j'en étais un de ça. Pas au point de dire qu'il y avait juste un Monopoly dans la vie, mais quand même, j'en étais un. Puis je travaille d'ailleurs uniquement avec ce type de clientèle-là. Lorsque je fais des contrats d'animation, souvent, la personne qui m'engage est convaincue, mais les invités, eux autres, ils n'ont aucune idée du contenu. Ils arrivent, puis un peu décontenancés. Il n'y a pas de musique, il y a juste des jeux. Qu'est-ce qu'on fait pendant la soirée? On va jouer? Ben voyons. Puis souvent, les gens, c'est ça. Fait que moi, ma job, c'est vraiment de convaincre tout le monde, incluant les gens qui, même en voyant les jeux, ne veulent pas jouer. Je réussis passablement à le faire, je dirais. Puis ça se fait, ça peut se faire. Je pense que le gros défi, c'est vraiment, bon, dans le fond, l'éducation, la communication. Un peu ce que vous faites, dans le fond, avoir une radio comme ça, ça permet d'inculquer aux gens la nouvelle culture qui se développe, une nouvelle manière de se divertir. Puis on voit que avec l'avènement des jeux vidéo, l'interactivité, une approche plus sociale avec les jeux vidéo, le jeu de société, dans le fond, est au centre de tous ces devoirs, le fait que l'Internet devient plus interactif, tout ces éléments. Fait que le jeu de société vient amalgamer beaucoup ces choses-là, d'après moi.
C'est vrai que même le jeu vidéo, depuis une couple d'années, le jeu de société est présent dans le jeu vidéo également. Il y a des jeux de société qui ont inspiré certains jeux vidéo. Et,
je te dirais même vice-versa. J'ai découvert récemment un Jenga Donkey Kong. Puis l'adaptation est très intéressante. Puis mon Dieu, on a vraiment l'impression de jouer à Donkey Kong, mais là en 3D. Puis on va aller botter le cul à Donkey Kong en haut de la tour. Fait que, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Là. Fait que non, le ça se fait des deux côtés, effectivement. C'est ça qui est intéressant.
En passant, est-ce que les soirées de jeu ont un nom spécial, celle de
Cinecure? Pour l'instant, on est allé tout simplement avec Cure de jeu. On a fait un clin d'œil. Ouais, pour l'instant, le concept n'est pas encore nécessairement coulé dans le béton. Moi, j'ai toujours comme logique de m'inspirer du lieu, hein, parce que c'est là qu'on se rencontre. Je ne veux pas nécessairement imposer les soirées socio-jeux. Souvent, je m'inspire du lieu, parce que souvent, c'est le lieu aussi qui va définir un peu les échanges qu'on va avoir. Parce que c'est là qu'on va... Concrètement, on se rend compte. T'sais. Fait que souvent, c'est le lieu qui va m'inspirer, un peu comme les trucs que j'ai pu faire à d'autres endroits, dans d'autres cafés. Je m'inspirais de l'endroit en tant que tel là, pour proposer des concepts, dans le fond.
Mais super. En terminant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour... en fin de compte, on parle de Cure de jeu qui se situe à Cinécure. C'est le mercredi soir?
Tous les mercredis soirs de chaque semaine à partir de 19h, 5 $ l'entrée, jeu à volonté, que dire d'autre? J'attends les
gens. Est-ce qu'il y a possibilité de consommer de la boisson ou chose
je te dirais que c'est un café complet, expresso, okay. Graines glacées, gelato, sandwich, take-out. Il y a même du pop-corn au sous-sol, dans le fond, une petite machine. Pour la boisson alcoolisée, il y a des bars pas loin. Et si vous voulez aller prendre une petite bière et revenir jouer, il n'y a pas de problème.
Ah oui, c'est ça. Mais je pensais plus sur place, mais c'est ça, avec un café, c'est quand même parfait de prendre un petit café en jouant à des jeux. Et merci beaucoup, Francis Gagnon, d'être passé à Puissance Maximale.
Merci, très généreux de votre part de m'accueillir.
Ça nous a fait plaisir. Et Guillaume, on va y aller en musique. Ce sera 12 Days of Blizzard Christmas, c'est bien ça?
Une reprise qui date de quelques années, qui a fait le tour sur le net, qui revient tous les années. Et je me suis dit, dans les périodes des fêtes qui commencent, on va y aller avec des vieux classiques de gaming.
Donc, on entend très bien ce que c'est, on va l'entendre, mais avec le visuel aussi, parfois, c'est plus évident parce qu'il y a certains mots qu'on entend plus ou moins bien parce que ce sont des personnages de Blizzard, en fin de compte, qui viennent nous chanter les 12 jours de Noël.
Oui, donc c'est les personnages, les unités, les monstres qui chantent chacun leur petit refrain. Et il y en a certains qu'on en comprend moins bien, mais il faut juste se concentrer un peu, puis on peut imaginer à quoi ça peut ressembler.
C'est parfait, on va écouter ça.
On the first day of Christmas, Blizzard gave to me a brand new SCV. On the second day of Christmas, Blizzard gave to me two Terran Wraiths.
And a brand new SCV.
On the third day of Christmas, Blizzard gave to me three Marines. Two Terran Wraiths.
And a brand new SCV.
On the fourth day of Christmas, Blizzard gave to me four Hydro Husks.
Three Marines. Two Terran Wraiths.
Science vessels,
nine battle cruisers.
I hate all this singing.
Six zealous fighting. Three Marines, two Terran Wraiths,
and a brand new SCV.
On the 12th day of Christmas, Blizzard gave to me 12 Arbiters.
11 science
vessels, 9 battle cruisers,
8 Archons,
4
Jolly. Hey, who spiked the egg?
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA et nous sommes en compagnie de Guillaume Foran qui va nous parler de sa vie de gamer.
Oui, ma grosse vie de gamer, bon, pas aussi grosse que je voudrais l'avoir, mais quand même une vie de gamer par moment. Dans le 1er décembre est sortie l'expansion de Lord of the Rings Online qui s'appelle Siege of Mirkwood.
Bon, ok, attends une minute. Lord of the Rings Online, qui est un jeu complètement en ligne seulement.
Un MMO
qu'il fallait acheter avec sur disque, qui se joue sur PC. D'accord.
C'est un jeu qui a eu déjà une extension et ça, c'était la deuxième extension payante que le jeu offrait.
Oui.
Qu'est-ce qui est intéressant dans cette extension-là, à part bon, les choses habituelles, monde de niveau, des nouvelles zones, il y avait un nouveau système qui s'appelle des skirmishes.
Des skirmishes, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est?
C'est des escarmouches.
Des escarmouches.
Oui, donc c'est des petits combats, c'est pas des gros combats avec plusieurs unités. Généralement, on implique plus quelques personnes contre quelques ennemis ou quelques vagues d'ennemis. Dans le système de skirmish ou d'escarmouches, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre personnage, qu'on est en train de faire des choses dans le monde, on est en train de tuer des orques, des trolls, des choses de même un petit peu partout, et ça nous tente de faire quelque chose de différent. On veut plus faire des quêtes, on veut juste faire un petit combat qui dure peut-être une demi-heure, 45 minutes, mais une petite séquence de jeu très simple, pas compliqué, et qu'on veut faire avec quelques amis. Et c'est là que le système de skirmish embarque. Ce système-là, qu'est-ce qui est intéressant, première des choses, c'est un système qui s'adapte au nombre de joueurs. Donc, qu'on soit un joueur, deux joueurs, trois, jusqu'à six joueurs, et même il y a des possibilités d'avoir jusqu'à 12 joueurs, le système, le skirmish, s'adapte automatiquement au nombre de personnes qu'il y a dans le groupe. Donc, pas obligé de faire, bon, ben, selon on ne peut pas le faire, on n'est pas assez nombreux, ou selon on est trop nombreux, ça va être trop facile. Le jeu, automatiquement, va ajuster selon le nombre de joueurs. Donc ça, c'est déjà là, c'est intéressant pour les gens. Parce que des fois, on n'est pas toujours capable de rassembler le nombre de personnes qu'on veut. Des fois, on est juste nous-mêmes tout seuls. Des fois, on a juste un ami, on a 3-4 amis. On veut faire quelque chose, on ne sait pas quoi. Les gens ne sont pas nécessairement rendus tous au même endroit dans le jeu. Donc, c'est une chose qu'on peut faire facilement. C'est un petit peu comme dire à tous nos copains, ben, à soir, venez chez nous, on va jouer à un jeu de cartes, on va jouer à bang, on va faire quelque chose. Oui. Puis le monde dit au fond, ben oui, parfait, on descend, on joue. C'est un petit peu le même principe. Bon, les skirmish, comme j'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui peut prendre d'une demi-heure jusqu'à 45 minutes, tout dépendant desquels qu'on prend. Il y en a plusieurs qui existent. On en débloque à fur et à mesure qu'on joue, donc on a quand même besoin de jouer dans le jeu, de monter de niveau pour pouvoir y avoir accès.
D'accord.
On n'a pas accès à tout en partant. Bon, ça, c'est quelque chose qui est correct. On
comme dans la plupart des jeux en ligne, auquel, justement, il faut faire un peu ses classes pour débloquer tout ce qui se passe.
C'est ça. Entre autres, qu'est-ce qui est intéressant des skirmishes, c'est les récompenses. Parce que c'est un système qui est fait pour le joueur qui n'a pas nécessairement le temps d'aller faire les grosses instances pour aller chercher les meilleurs morceaux d'équipement qui pendant des instances qui peut prendre 2-3 heures de temps à ramasser un groupe de 6 personnes. Mais avec les skirmishes, quand on les complète, on ramasse des points. Et avec ces points-là, on peut acheter des récompenses. Donc, c'est une façon pour les joueurs de pouvoir acheter des choses qu'ils ne pourraient pas avoir normalement ou qu'il faudrait qu'ils investissent beaucoup de temps à les chercher. Celle-là, ici, ça nous permet à temps perdu, d'une certaine façon, dans le jeu, à coup de demi-heure, de ramasser des points pour pouvoir nous chercher les équipements qui nous manquent pour notre personnage. Donc ça, c'est déjà un point très intéressant que j'aime bien de Blizzard. Ça élimine certaines parties de qu'est-ce qu'on appelle du raiding, donc des grosses gangs qui vont faire des instances. Ça élimine une partie de cet aspect-là. Qu'est-ce qui rend le jeu plus accessible pour le gamer casuel que juste quelques heures accordées par soir ou par semaine? Aussi, dans le skirmish, qu'est-ce qui est intéressant, on n'est pas tout seul. Chaque personne qui joue a un soldat avec lui. Et encore là, avec les points qu'on gagne dans les skirmish, on décide du rôle de notre soldat pour agrémenter notre personnage. On augmente ses statistiques avec le temps aussi. Donc, plus qu'on fait de skirmish, plus qu'on gagne de points, plus qu'on peut acheter des récompenses, plus qu'on peut augmenter notre soldat aussi. Donc, plus ça vient facile avec le temps. Là, les gens vont dire, oui, mais si ça vient trop facile avec le temps, il n'y a plus d'intérêt à le faire. Mm-hmm. Le jeu, on peut augmenter la difficulté d'un skirmish en plus. Donc, il y a plusieurs possibilités d'évoluer et pas de rester stagné. Donc, il y a vraiment pour des heures et des heures, et je dirais même des semaines et des mois de plaisir pour ceux-là qui veulent le faire.
Puis, dis-moi donc, Guillaume, là, c'est une option qui est nouvelle dans la nouvelle expansion dont tu parlais. Est-ce que c'est une option qui vient te faire jouer juste à ça 24 heures sur 24 dans le sens que c'est vraiment addictif, là? C'est vraiment quelque chose là, qu'on, Je pense juste par exemple à des jeux comme Call of Duty, des choses comme ça. Quand on commence par exemple à jouer en ligne à, je sais pas, Domination ou quelque chose comme ça, parfois tu ne veux que jouer à ça, tu passes du temps à jouer à ça. Est-ce que c'est justement cette option-là, Skirmish, qui est très différente des options de quête régulière, ces choses-là, est-ce que c'est quelque chose qui vient justement te faire décrocher de ce que est vraiment Lord of the Ring Online et en fin de compte, tu ne fais que passer ton temps à jouer à ça?
Pas tout à fait, mais c'est pas loin. Parce que le système, il est fait pour que, à chaque fois qu'on fait la première fois dans une journée un skirmish,
oui,
on a des points bonus de récompense. Par après, à chaque fois qu'on le fait la même skirmish, on a de moins en moins de points qui se rajoutent.
D'accord.
Donc, éventuellement, oui, on peut le faire, mais on gagne plus de récompense. Donc, le jeu, éventuellement, nous enlève un petit peu vers cette lignée-là. Mais on peut facilement, dans une journée, faire pour au moins un 3 heures de skirmish facile.
Ben, c'est ça. Je disais 24 heures tout à l'heure en farce, mais je veux dire, déjà là, 3 heures de jeu de fil, c'est quand même quelque chose.
C'est quand même du temps. Donc, on peut passer une soirée à faire ça facilement sans avoir de problème. Oui, moi personnellement, j'ai fait beaucoup de skirmish pour l'essayer et c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a même des gens qui jouaient plus ou moins à temps perdu qu'avec les skirmish, ils viennent plus souvent depuis la sortie justement, puis c'est quelque chose qui les attire. Il y a d'autres gens qui sont pas attirés par ce style de jeu-là parce qu'ils l'ont pas découvert ou que ça les intéresse pas du tout. Mais je te dirais que oui, c'est quand même quelque chose qui est addictif, quelque chose qui est intéressant. Qui fait vraiment changement. Donc, le fait de changer le style du jeu dans le jeu est comme rajouter un... C'est comme un nouveau jeu dans le même jeu parce qu'on utilise notre personnage et on l'augmente avec des points différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient chercher le joueur plus occasionnel, là, comme je disais tantôt.
Oui.
Qu'est-ce qui est vraiment très, très intéressant? Ma conjointe, elle-même, des fois, elle stand de faire des quêtes. Quand le skirmish va bien, elle aime bien ça. Il y a des fois le skirmish, les ennemis sont aléatoires aussi. C'est pas toujours les mêmes ennemis, les mêmes événements qui se passent. Il y en a qui sont aléatoires à l'intérieur. Des fois, il y a certaines combinaisons qui font en sorte que c'est plus difficile. Elle aime moins ça à ce moment-là. Mais dans les situations plus standard, elle-même, elle préfère faire ça aussi à ce moment-là. Ça lui permet de décrocher du jeu de base, comme je disais, puis vraiment de faire un petit quelque chose pendant une demi-heure, un 45 minutes, très intéressant, puis pour vraiment ma conjointe qui est vraiment un gamer qui est, dans le fond, occasionnel, parce que je fais vraiment plus d'heures qu'elle là-dessus, c'est quelque chose qu'elle trouve vraiment intéressant. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher des gens plus, un type de joueur différent qui joue quand même au MMO.
C'est super, ça! Et on continue en musique?
Oui, on y est là en musique. Et qu'est-ce
Merci beaucoup d'abord, Guillaume, de ce commentaire.
Il n'y a pas de problème.
Et on y va avec Fallout, je crois. Hein?
Oui, avec Fallout. Par contre, il va falloir me donner quelques instants parce que, bien sûr, c'est de la radio live.
Et oui, mais Fallout, on peut toujours en parler un peu. Je ne sais pas si c'est du Fallout 3 que tu nous fais jouer, mais...
Oui, ça devrait 3. Être du Fallout 3, effectivement.
C'est un excellent jeu qui a été créé par Bethesda et qu'on vous conseille parce que c'est un peu du style, juste un peu, on avait Oblivion tout à l'heure en entrée. C'est un petit peu dans le même style et ça vaut vraiment la peine de jouer à ce jeu-là. Et on va sûrement l'avoir.
Et des troubles.
Mais oui, c'est le live, c'est comme ça, on va continuer à parler sans problème.
Et cette semaine, c'est une pièce de Musax et il n'a malheureusement pas d'intro, ou du moins s'il est là, je ne le trouve pas, donc je m'excuse à l'avance, mais on a la chanson et qui part.
Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites.
De retour sur les ondes de Sequoia, on était dans l'ambiance Fallout 3, vraiment une ambiance assez morbide, qu'on parle de, c'est un jeu post-apocalyptique qui se passe en tout cas le 3, qui se passe bien sûr à Washington DC ou dans les environs. Donc c'est un peu normal que l'ambiance est un petit peu plus spéciale, disons, dans ce qu'on vient d'entendre. C'est maintenant le temps, Guillaume, de parler achat de Noël. Il y a des gens qui n'ont pas encore de console de jeux vidéo, qui veulent en acheter pour eux-mêmes ou peut-être pour les enfants.
Tout le monde devrait avoir au moins une console.
Et une console pour s'amuser de temps en temps, pour se consoler peut-être, un mauvais jeu de mots. Mais bon, tout simplement, on sait qu'il y a plusieurs consoles disponibles. Aujourd'hui, je ne ferai pas le tour nécessairement des consoles portables comme la DS ou bien la PSP, parce que puis maintenant, dans le même avec les iPhones, qui incluent des jeux qui sont quand même intéressants. On va y aller avec les consoles de jeux, là, les massives, là, celles qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, comme la Wii, la PS3, l'Xbox 360, et peut-être qu'on terminera avec le PC. Qui sait? Le PC pourrait être aussi une option pour les gens qui aimeraient jouer, parce que, bien sûr, on a des gamers, des joueurs de PC. Et,
peut-être te convertir à la longue.
Et est-ce que ça sera facile de le faire, me convertir au PC? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai quand même tout le plus grand des respects pour les joueurs de PC, simplement. Commençons avec la Wii, vu qu'on est deux propriétaires de Wii, oui, de notre côté. La Wii, qui est quand même une option très intéressante pour les consommateurs, bien sûr, ce n'est pas la console la plus forte en termes de résolution. De ce qu'on peut voir à la télévision. Donc, c'est quasiment mieux d'avoir un téléviseur vieux modèle, disons, pas HD pour pouvoir jouer à la Wii.
Ça ne change rien, effectivement, pour la Wii. Même des fois, sur une grosse TV, on voit plus les pixels.
Il y a des jeux qui sont assez difficiles à regarder. Oui, tout à fait.
Mais il y a l'avantage famille.
L'avantage famille, la Wii, c'est tout simplement ça. La Wii, ce n'est pas des graphiques extraordinaires. La Wii, c'est d'abord et avant tout ce qu'on appelle la jouabilité ou le gameplay en mauvais français. C'est vraiment pour ça qu'on l'achète, parce que encore là, au niveau de jouabilité, je pense que oui, il y a des jeux qui n'arrachent un peu. On s'entend qu'on a produit beaucoup de jeux, pas juste chez Nintendo, de la part des tiers parties, des autres compagnies, des jeux qui étaient faciles, mais si on tombe dans la majorité dans les séries faites par Nintendo, que ce soit les Mario, les Zelda, que ce soit les Wii Sports, Resort, tous ces différents jeux-là, ce sont des jeux qui sont super intéressants, une gamme de jeux très intéressante pour la Wii. Et bien sûr, il y a eu d'autres petits ajouts qui ont été faits d'autres compagnies. Les Manhunt, qui étaient, bon, bien sûr, on parle de jeux un petit peu plus difficiles, qui ne sont pas nécessairement des jeux pour enfants. Il y avait aussi No More Heroes qui est sorti, qui était très surprenant, Mad World. Là, on parle de jeux vraiment un petit peu plus violents, sanglants. Mais il y a quand même une belle variété de jeux sur la Wii qui est intéressante, et c'est quand même une console qui se vend très bien. Et on a de plus en plus de modèles disponibles parce que ça a été une pénurie incroyable durant les dernières années. Maintenant, on en retrouve sur les tablettes. Donc, c'est une très bonne console, surtout pour la famille, oui.
Oui, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de jeux sur la Wii qui se jouent à plus qu'un joueur.
Oui.
Comparé aux autres consoles, non, oui. Mais la Wii, il y a beaucoup de jeux qui sont conçus pour être joués de 2 à 4 personnes et pas juste de jouer tout seul. C'est un gros avantage quand on a beaucoup d'amis, exemple des gens qui sont en colocation, même la famille. C'est pas un jeu qui va avoir une personne assez toute seule qui va monopoliser la télévision. On est un, on est deux, on est trois, on est quatre qui jouent. C'est un bon plus quand même pour la console. Et il y a une autre affaire aussi qui est disponible, c'est les WiiWare. Donc, souvent des vieux jeux qui refont, qu'on peut jouer sur notre console.
Oui.
Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant.
J'allais justement en parler, c'est quand même... parce que, bien sûr, toutes les consoles dont on va vous parler aujourd'hui, il y a possibilité d'aller chercher des jeux qui étaient des jeux d'ordinateur à l'époque ou des jeux de vieilles consoles, sauf que vraiment, je pense que le Nintendo, la Wii, c'est celle qui offre une gamme, disons, de nostalgie pure, vraiment, parce qu'on trouve des jeux de la Nintendo Entertainment System, qui était le NES, le premier Nintendo, le Super Nintendo, le Nintendo 64. On retrouve même des jeux des concurrents, le Sega Master System à l'époque, le Genesis, des jeux de TurboGrafx-16 qui étaient...
ça date de quelques années.
Hey, on parle. Moi, je me souviens, ça passait dans les annonces quand j'étais plus jeune. Des annonces de Super TurboGrafx-16 à l'époque. Tu sais, les petits samedis animés là, dans les postes anglophones. Ça passait comme annonce. Puis j'en voulais un, je n'ai jamais eu. Même le Neo Geo et le Commodore 64, on retrouve des jeux Donc, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, il faut être branché pour être sur Internet pour avoir accès au téléchargement de ces jeux-là.
Et ça coûte des points
généralement. Ça coûte des points, oui, qui sont quand même, ce sont quand même des jeux abordables.
C'est ça, c'est pas trop cher. Ça peut varier 5 à 10 $ tout dépendant du jeu. Mais c'est un investissement, ceux-là qui n'ont plus de vieilles consoles pour aller chercher des vieux classiques comme les Mario qu'on a aimé quand on était jeune, oui, qu'on veut revoir. Mais on est capable d'aller chercher pour notre console. C'est quand même un bon point qu'on peut pas mettre de côté là, pour Nintendo. Puis leur bibliothèque de ressources de jeux qui datent de l'époque. Et comme tu as dit, je crois que c'est vraiment la meilleure bibliothèque qui est disponible. Pas nécessairement tous les meilleurs jeux.
Non, mais
le plus de choix pour la qualité est là.
La qualité et la nostalgie, disons, parce qu'on sait que gamer, en tant que tel, on est toujours nostalgique de nos bonnes vieilles années.
Et on se souvient toujours de nos passes qu'on était capable de faire à l'époque.
Et on essaie de les répéter.
Oui.
La Xbox 360 maintenant, qui est une console un petit peu plus, disons, de joueurs aguerris, on retrouve des jeux quand même assez intéressants, qui vient en deux modèles, la Xbox 360 Arcade ou la Elite. Moi, je propose la Elite là, quand même, parce que c'est celle qui inclut un disque dur et peut-être deux contrôleurs, et peut-être même vous avez des paquets spéciaux encore qui sont disponibles sur les tablettes. Quand on parle de paquet, on parle du bon vieux terme mauvais français « bundle ». Par exemple, un spécial Resident Evil ou un spécial Halo, qui est une série quand même assez incroyable sur la Xbox 360, qui offre des jeux très intéressants, des exclusivités intéressantes. Là, quand on parle de Fable, par exemple, et Fable 2,
bon jeu,
qui sont de très bons jeux. La série d'Halo, dont je parlais il y a quelques secondes, très intéressant aussi. C'est eux, bien sûr, qui ont eu à l'époque les Oblivion, les Morrowind en exclusivité. Malheureusement, malheureusement ou heureusement pour les joueurs de PS3. Je trouve que ça fitait pas nécessairement PS3 comme jeu. Je trouve que vraiment la Xbox, bien sûr, faite par Microsoft, offre un peu plus de jeux à la PC, justement. Là. C'était ça qui faisait la Xbox était différente de la PlayStation.
Plus de jeux qui étaient sortis sur l'ordinateur, sur le PC, qui ont été traduits pour le
qui ont été transférés, justement, sur la console. Et c'est ça, c'était... La Xbox, à l'époque, était la console PC, disons, dans un sens. Et, bien, c'est toujours intéressant comme console. Bien sûr, c'est une console qui permet d'avoir de la haute définition. Donc, vous avez un téléviseur haute définition, c'est numéro un comme ça. Ça vous permet d'aller également sur Internet parce qu'il y a Xbox Live qui est disponible. Bien sûr, il faut payer pour avoir accès à Xbox Live, sauf que ça en vaut tellement la peine. Présentement, c'est une soixantaine de dollars, je pense, par année. Et on pense peut-être que ça va devenir à 10 dollars par mois. J'ai lu ça cette semaine en nouvelles. Il se pourrait que ce soit 10 $ par mois, donc peut-être le double du prix, mais bon, c'était seulement une rumeur.
Et qu'est-ce qui est important? Ça vous prend une connexion Internet haute vitesse pour que ça soit fonctionnel.
Oui.
Si vous ne l'avez pas, ça va vous abonner, ça ne marchera pas plus. Ça vous prend ça en plus de votre connexion Internet.
Ben oui, puis en fin de compte, connexion Internet haute vitesse, je pense que c'est le minimum, là, si on veut justement jouer en ligne.
Pas
seulement pour jouer en ligne, mais je veux dire, oui, pour avoir l'accès au Xbox Live, qui n'est pas nécessairement jouer en ligne, mais...
Juste à cause de la quantité de transfert, la vitesse de transmission des données, ça nous prend la haute vitesse, l'intermédiaire, c'est juste pas assez rapide, puis ça donne pas assez de transfert non plus généralement. Les gens vont avoir des factures trop salées à ce moment-là, donc vraiment mieux d'aller avec des forfaits haute vitesse.
Donc, l'Xbox 360, ce dont on parlait, quand même une très bonne console qui s'est améliorée parce qu'on sait que par les années, il y a eu quelques problèmes dans les dernières années au niveau du Red Ring of Death, qui était l'anneau...
T'étais un abonné.
Ouais, j'étais un abonné au Red Ring of Death, mais bon, présentement, c'est vrai qu'elle ne sert pas du tout la console, donc elle ne peut pas péter. Mais c'est un modèle intéressant. Que je dirais, bon, si vous avez des enfants, oui, le Xbox 360 peut être intéressant, peut-être pour des joueurs un petit peu plus aguerris, des joueurs qui sont un petit peu plus vieux. Parce
pas
que
pour la famille.
Pas, non, pour ça peut être pour la famille, oui, mais le type de jeu qu'on a sur Xbox, je parle plus d'exclusivité, c'est souvent des jeux de rôle, c'est souvent des jeux un petit peu plus longs, des choses comme ça. Donc, faut être un gamer aguerri. Tandis que, par exemple, la PS3 sur laquelle on s'en vient, on a des jeux d'action souvent qui sont en exclusivité, qui sont beaucoup plus... c'est un jeu d'action beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile. Et souvent, ce sont des joueurs de tous âges, par exemple, qui vont opter peut-être pour la PS3. La PS3 qui est maintenant offerte en modèle mince, la PS3 Slim. Et c'est le modèle qu'on vous conseille d'acheter si jamais... je pense que c'est le modèle qu'on trouve pas mal sur toutes les tablettes
moins
maintenant.
Moins cher, aussi bonne et moins grosse.
Moins cher qu'avant, moins grosse, aussi bonne, comme tu le dis. Plus d'espace, un disque dur de 120 gigs. C'est bien sûr, avec le système PS3, le PlayStation Network, qui est le jeu en ligne. C'est également disponible, mais c'est gratuit. C'est super intéressant. Et les PS3 viennent avec le lecteur Blu-ray.
Qu'est-ce qui est quand même pas c'est quelque chose de très intéressant. Ça nous donne un lecteur Blu-ray qui vient avec la console, pas obligé d'en acheter un à part.
Ça, ben non, c'est ça.
C'est un bon avantage comparé au Xbox puis même la Wii.
Ouais, très intéressant à ce niveau-là. Et les jeux sont très, très, très bons. On parlait la semaine passée de Drake, Drake 2 Uncharted, qui était très, très, très intéressant. Dans Infamous, qui est sorti en exclusivité. Little Big Planet, qui est un jeu très familial, un peu à la Mario Bros, mais dans lequel on peut faire des petits tableaux avec un petit bonhomme sac... fait en tissu de sac et vraiment c'est super intéressant, on peut jouer à plusieurs dans ce jeu-là. C'est quand même une console qui offre ses exclusivités et elles sont très 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 intéressantes. Pour ce qui est du PC, Guillaume, toi qui es un gamer PC, qu'est-ce qui fait qu'on devrait peut-être plus opter pour le PC? Est-ce qu'on doit absolument être un joueur assidu pour opter sur le je m'achète le gros kit PC ou...
Ben, on n'est pas obligé. C'est sûr, certain que les jeux les plus récents qui sortent, les gros jeux, généralement vont demander plus de puissance, donc un ordinateur plus à jour. Par contre, il y a quand même une durée de vie de plusieurs années normalement sur un ordinateur par rapport au moment où est-ce qu'on l'achète. Je dirais que l'avantage du PC, c'est toutes les sur les jeux de PC, c'est toutes les choses supplémentaires qu'on a gratuitement qu'on peut aller chercher facilement.
Oui.
Les modes, donc je parle par exemple comme des jeux de comme Civilization. C'est un jeu très populaire de stratégie, mais qu'on peut télécharger, dans le fond, des modifications qu'on rajoute au jeu. Il y a des RPG aussi qu'on peut faire ça plus facilement. On peut l'éditer des cartes. On peut créer nos mondes plus facilement. C'est un point quand même, c'est un bon avantage pour le que sur le PC comparé aux autres consoles, qu'on peut pas faire qu'est-ce qu'on veut avec le jeu. On peut pas aller le modifier. Le jeu vient comme ça, il reste comme ça. Sur l'ordinateur, on a plus de possibilités. Moi, comme que je dis dans mon domaine, je travaille en informatique. Puis en informatique, c'est comme avec des voitures.
Oui.
Au Québec, si je veux aller de chez nous, Beauport, jusqu'au centre-ville de Québec, j'ai-tu besoin d'une Porsche?
Ouais, pas nécessairement.
C'est bien d'en avoir une, non, si j'ai les moyens, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est un petit peu la même chose avec un ordinateur, avec un PC, puis même avec les consoles. C'est pour regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire, qu'est-ce qu'on veut faire, et prendre le bon choix. Faut pas prendre, je dis ça de même, un Xbox pour... si on veut jouer à des petits jeux en famille rapides qui prennent pas beaucoup de temps, la Wii est mieux faite à ce moment-là. Si on veut quelque chose, qu'on veut aller faire de l'Internet plus facilement, qu'on veut aller regarder des vidéos, de la musique, l'ordinateur est peut-être plus apte pour notre besoin à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est très important dans toutes les consoles et même les ordinateurs, parce qu'ils ont chacun leurs points forts, ils ont chacun leurs désavantages, sont toutes bonnes. Mais vraiment, de prendre le bon outil pour le bon travail, c'est vraiment la meilleure suggestion qu'il n'y a pas à faire là-dessus.
Bon, on espère avoir été clair, même si des fois, on le... c'est pas évident. Mais on va passer en musique tout de suite, Guillaume. Allons-y avec « Do you want to date my avatar de The Guild? »
Oui, un coup de cœur de Vincent de cet automne.
Très bonne. Ouais, mais c'est grâce à toi, hein, nous a fait découvrir cette série-là sur Internet qui est vraiment très bonne.
Qui est rendue à la fin de la troisième saison.
Eh oui.
man so stoic. A hack and slash, who the heck's more low? Check me out, cloth armor, fits me like a glove. Just Twitter a time, I'm ready for love.
Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale.
Nous sommes de retour pour la fin de l'émission Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. Juste avant de terminer, une petite nouvelle qui a été annoncée le 4 décembre dernier, donc on parle de vendredi. C'est peut-être des choses que vous savez parce que vous avez lu le journal en fin de semaine, mais dans le monde du jeu, c'est hyper important. THQ, la compagnie THQ qui a annoncé qu'elle fera, en fin de compte, qu'elle aura un nouveau studio de développement à Montréal. Et elle a sélectionné Montréal, bien sûr, peut-être pour les avantages également que le gouvernement va lui donner. Ça devrait être le studio le plus gros de la compagnie. On pense peut-être avoir, au cours des 5 prochaines années, 400 emplois qui vont être créés.
C'est assez gros quand même.
Quand même très intéressant. Et on pense qu'on va pouvoir faire des jeux de base de THQ à Montréal. Bien sûr, également avoir un peu de support pour les autres jeux dans différentes disciplines comme le design, l'ingénierie, les arts, le contenu, la technologie, le développement. Et donc, ça devrait être assez intéressant pour ce qui est de THQ à Montréal. Et on pense ouvrir le studio à la mi-2010. Donc, si vous êtes intéressé également, c'est possible d'envoyer votre CV à montrealcareers@thq.com. Montreal Careers, Careers en anglais, bien sûr, à thq.com. Très intéressant. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. J'entends le thème final en mes oreilles. Et on va remercier Francis Gagnon d'être venu nous parler de ces soirées de jeu qui, en fin de compte, ont lieu à tous les mercredis, 19h. Et c'est au Cinécure, dans le coin de Sainte-Foy. Donc, facile à trouver. Et ce sera vraiment, vraiment des soirées intéressantes. Ça coûte 5$ pour y aller. Et on vous invite justement à y participer. Puissance Maximale ira faire son tour. Merci, Guillaume Forand, d'avoir participé à cette émission et d'avoir tenu la console.
Ça fait plaisir et merci d'avoir été là à la barre.
Mais ça me fait plaisir, moi aussi. Alors, c'est la fin de l'émission. Comme à l'habitude, on vous souhaite une bonne semaine.
Et bon gaming.
Fighting with the legends of yore.
It's D&D.